Bonjour et bienvenue d'Embrasseur, saison 4, épisode 10.
Le bonjour.
Bonjour. Épisode 10 qui parle du nouveau matos.
Voilà, le nouveau matos, encore.
Ça n'en finit pas parce que Robin n'en finit pas d'acheter du nouveau matos.
Mais en fait, c'est parce que comme on sait pas quoi dire dans les podcasts, on rachète du matos pour pouvoir faire des nouveaux épisodes matos parce qu'on sait que cela il marche particulièrement mieux que les autres.
Et puis comme ça t'as plus une thune, t'es obligé de faire de la bière.
Voilà, c'est ça.
On est encore en compagnie d'Antoine.
Hello.
Et on va parler de nouveaux matos. On va déjà, ça va être l'occasion de faire un petit historique de tous les nouveaux matos que tu as achetés depuis le tout début de cette histoire. Et il y en a. Spoiler, Robin a fait le chiffrage et...
Si j'ai fait un chiffrage de tous les investissements depuis le début.
Ah, je devais pas dire.
Allez, on va le donner, restez jusqu'à la fin, on le donne juste avant le générique de fin.
Et on parlera du nouveau matos en question. Je pense que les plus avertis l'auront déjà vu, par ailleurs, parce que t'as dû poster.
Oui, il y a des photos sur l'Instagram Tipsip.
Mais donc on va faire une présentation un peu geek de toutes ces choses-là. Et ben c'est parti. Oh, j'avais même préparé le générique cette fois-là. C'est juste pour le plaisir de nos oreilles. Hein, parce que...
Je peux avoir de bière?
C'est pas ça.
Et vous buviez combien par jour?
Ça, je sais pas. Je compte pas.
Dans les 40?
Signorina. Et donc encore un épisode sur le nouveau matos.
Ouais.
Il y en a eu tellement que Robin s'est dit qu'il serait nécessaire de faire
une petite liste. Alors, en plus, la liste n'est pas. J'ai sûrement oublié des petits trucs. Mais dans l'ensemble, je voulais faire un petit retour en arrière. Et c'est vrai qu'il y a eu du chemin depuis le Grain Phaser, le GF30, qui m'a été offert pour mon anniversaire d'ailleurs. Offert en 2020, juillet 2020, et finalement première utilisation en septembre.
Ouais.
Septembre 2020, premier brassin et première bière sortie du coup octobre 2020.
Ouais. Bon, rapide quand même.
Ouais. Bah.
Là, tu parles en pro ou en amateur?
Non, en amateur.
Sur
le Grain Phaser. Ouais. Ouais. Premier kit de brassage, c'était juin 2020. C'est la première fois que je brassais de la bière, juin 2020, avant de partir en vacances. Et direct dans ma tête, ça fait bing, Grain Phaser, déjà. Je me suis dit que ça serait trop cool.
Oui, c'est vrai que tu t'es direct dit, si j'achète un Grain Phaser, quoi.
Ouais, je sais pas. En fait, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête de soit faire de la bière, soit je me souviens, je voulais acheter un truc pour faire des growlers, mais un peu pro, et du coup aller chercher.
Les faire toi-même, d'aller dans les bars et de faire des growlers?
Ouais, c'est ça.
Ok.
Et en fait, je sais plus, c'est une petite machine qui vaut 200-300 balles, j'ai plus le nom exact du truc. Et en fait, tu vas te servir ta pinte, enfin, c'est pas une pinte, du coup, c'est 2-3 litres de Neipa de chez Verdant, et tu la mets sous vide, purgée au CO2, et t'as ta petite cartouche de CO2 dedans, donc elle est toujours un peu fraîche, tu vois. Enfin, tu peux te refaire une petite Neipa, voilà, c'était ça. Et après, je me suis dit, mais non, en fait, faut que je les fasse moi-même, c'est mieux. Et voilà, c'est donc en 2020 que la bascule s'est faite. Et puis finalement, un an seulement après, parce que c'est en juillet 2021, qu'on a acheté avec Pépé le Brewtools.
Le fameux Brewtools.
150, ouais, donc ça a pris un an avant de se décider.
Quoi, une belle longévité quand même, le Brewtools, non?
Ouais. À notre échelle, oui.
Oui.
Brewtools 150 et 4 petits fermenteurs. Plus, on avait récupéré.
C'est les fermenteurs en plastique, là.
Ouais, les fermenteurs en plastique. De tout le détail est sur le site de tout le matos qui avait été acheté. Il y avait des trucs qu'on avait récupéré de l'amateur. Donc, le moulin, c'était le Grain Gorilla avec une perceuse. Enfin, ouais. Il y avait encore beaucoup de trucs de récup de quand on était en Brassam. En avril 2022, donc il y a eu quand même une grosse étape où il a fallu quand même amortir tout le matos parce que ça faisait quand même beaucoup d'un coup. Et le petit truc qu'on a acheté en plus, c'était en avril 2022. Et c'était le SS Brewtech ISO, le petit fermenteur de 150 litres, qui est toujours là. Puis en mai 2022, le 5 hecto ISO. Donc ça, on avait déjà en tête de passer sur de l'ISO et de... On avait acheté l'ESS en étant un peu frustré de la taille et on voulait faire plus et machin. Et en fait, on s'était dit, bah, soit on achète plein de petits SS Brewtech, soit pour pas beaucoup plus cher qu'un SS Brewtech de 150 litres. On avait le 5 hecto qu'on avait acheté à 90 BPM. Donc ça
Toi, je me souviens quand il arrive, je me suis dit, ah ouais, d'accord.
Ouais, ça faisait déjà son petit effet. Il est toujours là, il est toujours très beau.
Mais il paraît plus petit maintenant.
Il paraît plus petit.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et donc le 5 hecto en mai 2022 et en août 2022, la Danican. Donc au final, ça allait assez vite aussi. En même temps, on avait de quoi faire de l'ISO. Donc c'était aussi pour ça qu'on avait pris de l'ISO, c'est qu'on savait qu'on voulait faire de la canette.
C'était les quoi les premières canettes déjà pour rappel?
Je crois que c'était je me demande si c'était pas la sans pression.
Ah oui, t'as raison.
Toute première canette. Ouais. Donc micro IPA.
Les Yes We Can.
Ouais, série Yes We Can.
Il y avait la French aussi. Non, la French, ouais, elle est arrivée après.
Non, ouais, la French, c'était la dernière de. Puis elle avait eu son petit souci qui fait qu'elle est ressortie récemment au final. Et d'ailleurs, elle est encore dispo, je pense, au moment où l'épisode est là. Mais ouais, du coup, ça faisait partie de cette même série. Par contre, la première bière qui était brassée dans le 5 hecto, il me semble que c'était une bière qu'on avait fait en collab avec la Mad Jack, le truc de vélo qui était arrivé à Brassy, et qui était aussi une session IPA. Donc on avait déjà utilisé, avant d'avoir la Danican, l'ISO, c'était un peu la découverte de l'ISO. Par contre, je sais plus ce qu'on avait fait dans le SS Brewtech, ça je me souviens plus. Ensuite, en novembre 2022, trois petits fermenteurs Paul Cinelli de 150 litres.
Ouais.
Parce qu'on avait besoin de plus de capacité de fermentation. Et je me souviens, on les a pris pour faire la série des trois stouts, la blend série. La première fois qu'on a utilisé ces fermenteurs, c'était pour ça, qui devait sortir du coup pour décembre et qui était arrivé un peu en retard.
Oui, c'est ça, dans ma tête, tu me dis, ouais, novembre ils sont arrivés pour la blend série une bière de Noël, enfin plus ou moins une bière de Noël.
C'était tard. Je me souviens, j'étais allé les chercher avec la Yaris, j'avais réussi à caser les trois dedans en passant une demi-heure sur le parking.
Je sais pas comment tu fais avec ta Yaris pour caser tout ça.
Il a pété deux fois les moyeux.
Mais du coup,
t'as fait un essieu aussi, non? Non, quand même pas.
Non. Mais du coup, ces trois petits fermenteurs-là qui étaient un moyen assez simple, au final, pas trop cher pour nous d'augmenter encore un peu la capacité de fermentation.
Ouais.
Puis est arrivé en février 2023, donc la PBC.
Ouais, il y a un an.
Un autre 5 hecto. Et le temps calait, tous les petits trucs qu'il y avait autour de ça, où là on commençait déjà à en avoir marre de remplir le 5 hecto avec le Brewtools. C'est arrivé à ce moment-là, mais ça a mis un peu de temps à s'installer et se mettre en place, parce qu'il y avait un gros changement, il y avait un peu de travaux, etc. Mais donc en février 2023, voilà, première grosse étape. En mai 2023, on a acheté 5 cuves Pharma. Il nous fallait de l'espace de fermentation pour Château-Perché. Ouais. Parce que, pour rappel, j'avais dit à Château-Perché, oui, on peut vous brasser tout ça.
On mais tu pouvais pas.
Absolument pas la capacité de le faire. J'ai dit oui, pas de souci. Je me souviens que Pépé m'avait regardé en mode, mais tu fais quoi là?
Tu vas faire comment? Et en plus, ça s'était fait vraiment une extrémiste.
S'il y avait eu un couac, ça aurait été l'enfer. Enfin, ouais. Mais tout s'est bien passé, donc voilà, petit coup de poker, mais bon coup de poker.
Ouais.
Donc mai 2023, les cuves Pharma. Août 2023, nouveau moulin. J'ai oublié d'ailleurs, dans le tas, il y avait eu le petit moulin, le Grain Phaser, qu'on avait changé depuis... Parce que le Grain Gorilla avec la...
Oui, parce que ça fait un moment, ça.
Oui, ça faisait un moment. J'ai pas tout mis, hein. Comme je disais,
il y a des trucs...
Des petits changements comme ça, mais le nouveau moulin, c'était un gros cap quand même, et le Grain Phaser est lâché, donc il avait fallu le changer. Octobre 2023, c'était on nous avait prêté l'embouteilleuse Tonsen, Donc c'était un prêt, petit truc, on en reparlera un jour parce que ce projet prend du temps, mais j'ai déjà évoqué le sujet de la brasserie de l'Orme à Bessé-Morvan, avec qui on a fait une collab d'ailleurs, mais qui est en cours de construction, qui prend du retard, etc. Mais bref, donc voilà.
L'histoire est marrante en plus.
L'histoire est marrante, ouais. Novembre 2023, le CIP. Donc ça, il y avait vraiment besoin d'avoir un truc de nettoyage clean et cool. Ça faisait un moment que j'étais dessus, mais fallait aller le chercher en Suisse et tout ça. Donc il est arrivé en novembre 2023 et nouveau matos, décembre 2023. Donc en fait, là, si je regarde, ça fait octobre 2020, un an après, juillet 2021 en passe pro, avril 2022, mai 2022, août 2022, novembre 2022, février 2023, bim, on rechange tout. Mai 2023, 5 cuves en plus. Moulin en août 2023, octobre 2023, l'embouteilleuse. Novembre 2023, CIP. Décembre 2023, nouvelle brasserie.
Nouvelle brasserie qu'on va vous présenter là tout de suite. Mais oui, t'as fait que...
Tout le temps. Et en fait, je me demande si j'ai pas une maladie et je suis pas accro à l'achat de nouveau matériel brassicole. Et je me dis, c'est un plus...
Là, c'est bon, on est tranquille pendant un moment. Quand même.
J'espère que là, on va arrêter d'acheter
ça. Alors, c'est calmé deux secondes.
Ouais, attention, on parlait de croissance infinie.
Tiens, t'as déjà fait fois 20, là.
Ouais, non, mais c'est même pas une question de taille. J'ai l'impression que j'aime beaucoup acheter des nouveaux trucs. En mode bon, c'est vrai que là normalement, mais encore une fois tu vois, si on regarde bien, bah il faudrait se racheter une bâche à eau chaude, il faudrait et puis plus tard on achètera une centrie, et puis plus tard
non, ça non. Pas tout de suite, non, c'est que... non mais il y a toujours des trucs à acheter de toute façon, mais
ouais,
bah bon
ouais.
Là en tout cas, en termes de capacité de fermentation, on a de quoi voir venir pendant un petit moment, je pense.
Et surtout là, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi du matos qui est plus fiable qu'avant. Parce que les cuves pharma avec une seule vanne de vidange, c'est l'enfer à gérer.
Et puis c'est plus uniforme, quoi. Maintenant, c'est tout ISO.
Ouais, c'est ça.
Tout,
c'était ça, faut le dire, c'était l'enfer. Ouais. Quand je brassais, il fallait que je me dise, ok, est-ce que je fais 500 litres, 600 litres, 700 litres, 800 litres ou 900 litres ou 150 ou 100 ou 120. Il y avait beaucoup trop de formats possibles et du coup, pour les recettes et tout ça, c'était quand même pas simple. Il y avait des surplus que je remettais dans un autre fermenteur. Enfin, c'était marrant, mais tu gères pas, tu peux pas bien gérer, être rigoureux dans ta gestion de prod comme tu peux l'être là maintenant avec ce nouveau matos. Donc voilà. Et pour rappel, toi, t'étais prêt à venir sur l'ancien matos. Encore une fois, je trouve ça ouf parce que. Franchement, je pense que ça aurait été compliqué quand même. Enfin, tu te serais un peu cassé les dents et tu serais peut-être un peu énervé sur le matos.
Ouais, bah c'est vraiment une question d'organisation de la brasserie, je pense, tu vois, parce que en fait, comme t'avais construit ta brasserie par étape, t'avais du matos qui avait rien à voir avec la choucroute. Tu vois, il y avait des raccords DIN, des machins, plein de formats, des mini clamps. Tu vois, enfin, il y avait beaucoup de formats, quoi. Et puis t'étais toujours. Moi, c'était un peu. Comme ça que j'ai commencé en amateur, à toujours chercher un raccord pour brancher un tuyau.
Ah oui,
il n'y a jamais un brassin où tu te dis ce tuyau-là, il fait ça. Quoi.
Ouais.
Et ça, au bout d'un moment, tu es fatigué. Tu as juste envie de te dire, bon, ce tuyau-là, c'est pour l'entonnement. Il y a un thé au bout, je sais que...
Enfin, tu vois, ça, je suis d'accord. J'ai commencé fixe, un peu à le faire à la fin. De me dire, ok, ça, il faut que les choses aient une place, il faut que les choses aient un sens aussi. Et que même si telle pièce peut faire 10 fonctions, il vaut mieux acheter 10 fois la même pièce. Pour pas avoir à débrancher, rebrancher et tout.
T'as des trucs qui se mutualisent, qui peuvent servir à plusieurs choses, mais en tout cas, savoir où sont les choses et que pour faire un transfert d'une cuve à une autre, t'as pas besoin de chercher et de téflonner du raccord, ça c'est quand même.
Ouais, c'est sûr. Bah,
c'est quand même pas mal.
Ouais, un truc tout con, la pièce qui fait clamp vers. Comment ça s'appelle le BSP, enfin le
BSP,
donc le filetage classique sur lequel on pouvait mettre du Gardena, parce que au début c'était une brasserie Gardena, hein, c'était une brasserie tuyau d'arrosage, genre enfin, n'importe quoi le truc, mais donc parfois ça, parfois on se connectait directement sur une vanne classique, parfois on se connectait du coup sur je sais pas une pompe, enfin genre c'était la même pièce qui servait à tout. Donc à chaque fois que tu voulais faire le truc, fallait que tu te souviennes de où est-ce qu'on l'avait utilisé la dernière fois et que tu la démontes, que tu la remontes, sauf qu'en fait, bah, peut-être que t'es dans une urgence de faire un truc, et ouais, c'est vrai que ça, c'était l'enfer. Mais en même temps, on voulait pas dépenser 15 fois le prix d'une pièce qui pouvait servir à tout.
Donc, et ça, c'était dû au fait que vous n'aviez jamais changé tous les éléments de la brasserie en même temps, et que...
Et que du coup, t'as des choses qui s'adaptent, les fermenteurs andines et la brasserie andine, et d'autres fermenteurs en clamp, et le Brewtools en mini-clamp, et... qu'il y avait trop de formats, enfin c'était...
Qu'est-ce qui fait que l'achat de la PBC a pas réglé ce problème-là
Parce que l'achat de la PBC, elle s'est... En fait, on a acheté la PBC, donc la salle de brassage.
Ouais.
On a acheté un fermenteur de 5 hectos ailleurs, dans une autre brasserie. On a voulu garder le matos existant. Et donc, on se retrouvait avec plusieurs... plusieurs bribes de brasserie, plusieurs...
Avec des formats différents à chaque fois.
Ouais, voilà, chaque brasserie à qui on avait racheté du matos fonctionnait différemment, et donc nous, on faisait le lien entre tout ce qu'on avait racheté d'occasion. Mais c'est vrai qu'à part le Brewtools et les 4 premiers fermenteurs, tout le reste, c'est que de l'occasion. Donc, et ça, je suis plutôt content, je suis plutôt fier de ce truc-là.
Ouais.
Parce que, et pour le porte-monnaie, et pour la réutilisation des cuves... je pense qu'il y en a suffisamment maintenant sur le marché mondial de la cuve.
C'est clair que Paul Cinelli et Caspar Schulz ont du souci à se faire. Il y a tellement de brasseries qui se revendent que
c'est clair, ça doit
se casser la gueule un peu.
Pas drôle d'être
ça a été très drôle pendant une petite dizaine d'années.
Ouais, ça doit bien se marrer, je pense. Ouais.
Ouais. C'est vrai.
Ouais, puis je pense qu'ils ont du taf.
Ouais, ouais, ouais. Mais donc c'est pour toutes ces raisons là. Et donc pourquoi nouveau matos en décembre 2023? Tout simplement parce que je me voyais pas accueillir Antoine avec une PBC. non, mais en vrai, à la base, ouais, je cherchais juste à agrandir la capacité de fermentation, et surtout à la, un peu comme tu disais, la standardiser, avoir deux l'ISO clean.
Moi, la PBC, franchement, ça me dérangeait pas plus que ça.
Ouais, non, c'est sûr.
Enfin, tu vois, même, je sais que toi, tu avais un peu l'habitude de l'utiliser et tout, tu m'as dit que ça fonctionnait bien. Bah vraiment, c'était pas trop le souci. Mais par contre, les 14 formes de fermenteurs différents,
c'était
qui sont
ça.
Pas tous ISO, pas tous thermorégulés, pas tous cylindroconiques et tout ça, enfin, et aucun de même dimension, ça c'est plus chiant à gérer.
Ouais. Et pour le coup, j'avais fait des bières, du coup, dans la PBC, j'avais brassé 10 hectos, même un peu plus, et j'avais splitté 500 dans un ISO, 500 dans un Atmo Cube Pharma. Et la bière n'avait pas du tout le même goût, tu vois. Genre la fermentation s'était passée totalement différemment entre les deux. Et du coup, moi je comprenais pas ce qui se passait pas bien. Enfin, je sais à quoi c'était lié, aux températures de fermentation qui étaient différentes, à la sédimentation aussi qui était différente.
Ouais. Et puis pour toi, ça va être horrible, t'as deux fois plus de paramètres à gérer.
Et du coup, t'es là en mode, c'est pas les mêmes bières, mais c'est exactement la même bière brassée, mais la fermentation est totalement... C'est dans un sens intéressant de voir à quel point tu peux faire un grand écart entre deux fermenteurs pour une base identique, quoi, qui a été brassée dans la même cuve, mais voilà, à terme, c'est clair que c'était pas viable, quoi. Donc nouveau matos. À la base, c'était juste, je cherchais juste 2-3 cuves de 10 hectos. Il y avait un peu de sous. Je me disais, bon, pourquoi pas, ça serait cool. Et finalement, opportunité de ouf. Il y avait donc ce nouveau matos avec la liste qui va dérouler à partir de maintenant. Donc, 3 fermenteurs de 20 hectos, donc ISO, et avec tous les petits accessoires qui vont bien. Donc, tout est ton de scène. Hein. On a gardé les 2 fermenteurs de 5 hectos en ISO, parce que c'est marrant. parce que du coup, en fait, c'est cool, avec un 10 hectos, tu peux faire la même bière, la splitter dans 2 fermenteurs et... faire des fermentations différentes pour le coup.
Oui, d'accord.
Un dry hopping différent, un ajout de fruits différent si c'est des... Et du coup, en fait, c'est cool d'avoir 2 petits où tu peux faire un peu plus n'importe quoi, parce que c'est un peu aussi ça qu'on a envie de faire, c'est grossir certes, mais continuer à faire des bières qui nous font plaisir, et en prenant un peu moins de risques en remplissant un 20 hecto d'un truc qui qu'on sait ne sera pas commercialement le banger absolu. Et du coup, en prenant moins de risques. Donc, c'est pour garder ce côté un peu cool de pouvoir créer des recettes sans avoir peur de...
Ouais, puis le côté un peu split batch où tu vois, on essaie deux levures différentes peut-être, ou deux timings de dry-up différents.
Ouais.
C'est super intéressant côté brassage. Et puis, je sais pas, moi je pensais peut-être à faire des séries un peu comme ça, un peu transparentes là-dessus pour, pour permettre un peu aux gens de voir en quoi ça diffère. Tu vois, d'une bière à l'autre, ça peut te marrant.
C'est pour ça c'est
les bières qu'on a prises chez Prisme, chez Prisme. C'était super intéressant. Ils ont fait la même bière avec quatre levures différentes.
C'est ça.
Okay. Et du coup, on s'est fait une petite dégustation, machin, tu te fais vite un avis en fait quand t'as exactement le même process.
Et du coup, ouais, c'est en ça que je dis, parce que c'est marrant, c'est que du coup, ça laisse la possibilité d'être créatif et de faire des tests et d'imaginer d'autres choses. Et,
puis ce qui vous permet, vous aussi, de d'apprendre le truc, j'imagine.
Enfin, c'est ça.
Faire un truc un peu labo.
C'est pour ça qu'on fait ça tous les deux, c'est ce côté expérience, tu vois.
Ouais.
Et ces 2-5 hectoles permettent de continuer à faire ça. Là où, si on les avait virés et qu'on avait gardé que du 20 hecto, j'aurais été un peu plus frileux, tu vois, faire des expériences comme ça.
Ouais. Bah, du coup, 3 20 hecto plus les 2 5, quoi.
Ouais, plus le 150 qu'on a gardé, après à voir si on le garde ou qu'on le garde pas, parce que lui...
On sait pas comment le remplir.
Non, parce que c'est trop gros maintenant pour le remplir. Donc,
Là, il est rempli, j'ai fait une upwater dedans, c'était 4 fois un grain phaser.
Ouais.
Ça m'a pris 6 heures quoi, enfin, pour faire bouillir de l'eau. Et
si on veut utiliser la PBC, en fait, juste la PBC, la nouvelle salle de brassage, 10 hectos, ton de scène, volume total 12 hectos, semi-auto, voilà, on l'annonce, ça y est, c'est dit. Et si on veut utiliser ça, en fait, je crois que juste le fond de cuve, c'est 100 litres.
Ouais, enfin, ça atteint pas la double pot pour chauffer quoi, tu peux pas chauffer 100 litres.
Tu peux pas chauffer 100 litres.
Donc, va falloir faire. Autrement.
Donc ouais, donc le voilà, si vous voulez envoyer des propositions de rachat généreuses, pourquoi pas.
Ah ouais,
sur le petit
à voir.
Après c'est marrant d'avoir un format comme ça, mais c'est un peu bâtard par rapport à notre capacité de production. Mais ça peut être, je sais pas, on peut faire 600 litres, remplir un fermenteur de 5 hectos et puis mettre un hecto dans l'autre et faire un truc un peu barré là-dedans quoi.
Ouais.
Bon, je pense qu'on va trouver comment le remplir.
Oui.
Sauf si vraiment il y a une très bonne proposition.
Sauf s'il y a une très bonne proposition, vous voulez celui-là en particulier.
Enfin, j'ai tellement hâte de revenir et que vous me disiez bon voilà, là-dedans il y a ça, là-dedans il y a ça, on a fait un petit test.
C'est sûr. Là, à l'heure où on enregistre, on est dans la brasserie et tout est vide.
Ouais.
Ça fait mal au cœur. Ah là là.
Il y a juste le circuit de refroidissement qui tourne tout seul. Et puis,
Il est en rodage.
En rodage.
Donc oui, tu parles de circuit de refroidissement. Pourquoi ? Parce qu'il est lié à une bâche à eau froide de 20 hectolitres.
Énorme.
Qui est énorme, ouais. C'est vrai que ça, j'avais pas anticipé, prévu, mais bon, c'était dans le lot, donc allez, hein, pourquoi pas. Et le groupe froid qui va avec, qui lui aussi est très gros. Je crois que ça t'avait marqué la taille du groupe, tu m'avais dit.
Bah, il est plus gros que ce qu'il y avait à Vézelay, mais après à Vézelay il y en avait 3.
Ouais. Okay. Bon, après à Vézelay il y a 20 fermenteurs.
21
fermenteurs, donc ouais. Mais oui, c'est un gros groupe froid, mais qui est branché, il va falloir
qu'on l'a éteint pour l'instant. L'autre jour on l'a allumé.
Ça fait un boucan.
On a compris quand même qu'il allait falloir peut-être isoler un peu le machin parce que.
Ah, ça fait vraiment du bruit.
Ouais, ça
fait
un peu.
Il y a deux énormes ventilos au-dessus, on dirait un hélicoptère le truc.
Ouais. Il y a pas du tout moyen de le foutre dehors.
On n'a pas de dehors aussi, en fait.
Non, on n'a pas de dehors.
Oui, c'est pas idiot, ouais.
Ouais.
Pas pour l'instant.
Derrière, là, il y a.
C'est chez quelqu'un.
C'est chez quelqu'un, ouais.
C'est son jardin.
Bon, il veut pas un petit gros froid dans son bas.
On lui fait l'hiver, ça lui chauffe sa véranda.
C'est ouf, peut-être un truc à faire. Hein.
On peut passer un partenariat. Donc, on a parlé un peu de cette partie.
T'es allé un peu vite sur
la salle de brassage.
Ouais.
Ouais. Tu veux qu'on y revienne?
Allez. Quand même.
Donc,
c'était pas ce pourquoi tu achetais le lot.
Non, mais quand j'ai vu qu'il y avait ça dedans.
C'était le bonus, quoi.
C'était le bonus, ouais.
La petite salle de brassage des hectos, bon, pourquoi pas, quoi.
Donc, tu vois, on change pas de taille par rapport à la PBC.
Pas de taille.
Non.
Ça donne faim.
Mais par contre, on a ce côté plus automatisé, peut-être plus précis aussi, même si la PBC, on l'avait bien amélioré. Hein. On avait vraiment mis des sondes de température, automatisé des petits trucs et tout. Donc finalement, c'était pas si relou de brasser avec ça.
Mais ce qui est cool, c'est que c'est en fixe.
Plus organisé, ouais, plus ouais. Propre.
Y a t'as, pas des, t'as des tuyaux inox, quoi. Enfin, c'est fixe. Et puis, ouais, t'as le petit panneau de contrôle qui te permet de gérer les températures d'empattage, ébullition, tout ça.
On a un petit écran.
Et ce qui est cool aussi, c'est que du coup, c'est chauffe-vapeur en double pot. Ouais. Du coup, ça reste vraiment uniforme.
C'est
donc, il y a deux vaisseaux. Il y en a une cuve empattage filtration, une cuve ébullition Whirlpool. Et le côté double pot, ça te fait des températures d'empattage qui sont vachement unifiées, surtout l'empattage. Enfin,
ouais.
Je pense qu'on n'a pas encore démarré ce truc-là, justement. Mais moi, je suis curieux de savoir à quelle vitesse ça chauffe, quand même.
Je crois que ça chauffe vite.
Ça chauffe vite, tu penses ?
Je pense que ça chauffe plus vite que ce que j'avais avant, oui.
C'est un peu l'inconnu, quoi, tiens.
Ouais.
Ça se trouve, on avait 3 heures à monter à l'ébullition.
Non. Avant, ouais, sur la PBC, on avait rajouté des résistances mobiles et
tout ça.
Ouais,
c'était du temps de fou, non ?
Mais ça prenait beaucoup de temps, ouais. Souvent, on partait, on laissait la brasserie, on chauffe toute seule. Et on revenait une heure et demie après. On arrivait pile avant l'ébullition.
Non, mais en soi, je pense que ça, c'est prévu pour. Enfin, c'est.
Oui.
La chaudière est prévue pour, quoi.
Ouais, carrément. Donc en plus, tu parles de chaudière, c'est parce qu'il y a une chaudière vapeur. Exactement.
Qui a donné beaucoup de fil à retordre. Je crois qu'on en a parlé vite fait dans les épisodes d'avant, non ?
Pas encore.
Peut-être pas.
Non. Ouais. Pas encore. Mais oui. En effet.
C'est encore trop frais.
C'est encore trop frais, on n'en parle pas. Aïe. J'ai mal à ma chaudière.
Ouais.
Mais non, en tout cas, ouais, très cool. Parce que ça, je pense que c'est plus confortable de brasser là-dessus. Et ça permettra aussi de se libérer entre guillemets des choses à surveiller qui pourraient être un peu prise de tête. Ouais, il y a un peu moins de charge mentale de vérifier que tout marche bien, de vérifier aussi les écarts de température. C'est vrai que ça, c'était un sujet sur la PBC où en haut, t'avais quand même, il faisait plus froid en haut de la cuve qu'en bas de la cuve, quoi. Avec des écarts de température qui pouvaient être assez importants, donc il fallait bien vérifier que la sonde trempait bien. Ça nous est arrivé plusieurs fois avec Pépé d'avoir mal mis la sonde et que du coup, en fait, les températures n'étaient pas bonnes, on a perdu du temps, etc., etc. Mais c'est sûr que c'était pas là-dessus que le besoin était le plus important. Par contre, il y avait aussi en bonus avec une embouteilleuse D-Bec semi-auto. Embouteilleuse que j'avais pu tester sur sa version 8 bec avec le prêt dont on a parlé avec ABC Morvan, du coup la brasserie de l'Orme. Et donc ça, oui, pour le coup, c'était assez, alors je vais pas dire obligatoire, mais c'est sûr que avant le prêt, j'étais encore sur un truc déjà Atmo, une petite cuvette à 2 becs et le capsulage à la main. Donc là, il y a 70 hectos en capacité de fermentation, 71 avec le petit.
Ouais.
On n'allait pas faire ça à la main, quoi.
Ça t'aurait mis 3 jours, quoi.
Ah ouais, puis même physiquement.
Oui, tu nous expliquais un peu tout à l'heure que tu avais disposé tous les éléments de la chaîne autour de toi et que tu étais en torsion 180 degrés.
C'est ça. Donc là, ouais, bon, après rarement, on a fait quand même quelques tests sur cette embouteilleuse Tonsen, ou sur d'autres versions, on est allé chez Vivien de la Truite, j'en avais parlé un petit peu dans le passage en full ISO.
Mm-hmm.
C'est quand même un peu technique, hein. C'est un peu capricieux.
Je pense qu'on va se prendre la tête.
Ouais, on va un peu se prendre la tête.
Ouais.
Une grosse inconnue quand même de ce truc-là, parce que ouais, on saura comment ça marche à la première bière, quoi.
Mmh.
On va voir si tout se passe bien, si ça tient la pression.
J'avais fait fonctionner
à l'eau juste.
Ouais.
Mais ouais.
Et c'est un truc qui est un peu capricieux, quoi. C'est pas l'embouteilleuse. Et en même temps, elle coûte beaucoup moins cher que la plupart des embouteilleuses ISO. Donc c'est du semi-auto. C'est faut pousser les bouteilles sur des petits racks à la main. Mais bon, ça fait le taf, et surtout, D-Bec, c'est quand même pas mal.
Et c'est marrant, depuis le début de ce podcast, depuis que tu brasses, j'ai l'impression que le conditionnement, c'est qu'il y a toujours des galères. T'as l'impression que ça va être simple, et en fait, c'est hyper relou, quoi. Ouais.
J'ai l'impression que c'est un peu ce qui prend la tête à beaucoup de brasseries.
C'est une des parties les plus importantes, hein, de toute façon, dans les brasseries qu'on aime tous, ça représente un budget énorme, quoi.
Ouais.
Parce que tu te rends compte que faire du mou, finalement, ça va, tu vois, une fois que t'as chopé le truc, t'y arrives, quoi. Gérer une fermentation, ça va, tu fais face à des aléas, quoi, mais tu peux le faire aussi assez facilement. Et après, par contre, gérer le conditionnement, t'as tellement de problématiques d'oxydation, de niveau, de cadence, de plein de choses, quoi, qui peuvent vraiment te ruiner un brassin alors que t'avais tout bien fait, quoi.
C'est qu'en fait, c'est la dernière étape et c'est là où tu peux rater.
Tout rater, ouais.
Tous les efforts que t'as mis en place. Donc il y a un petit peu de pression là-dessus. Et puis il y a surtout le fait que c'est... Il n'y a plus rien à rattraper une fois que c'est dans la bouteille, tu vois. Mmh. Alors, c'est le produit fini, conditionné, et donc s'il y a un truc loupé à ce moment-là, il n'y a pas d'étape derrière de maquillage ou quoi que ce soit, c'est le produit que t'envoies, quoi. Donc ouais, petit inconnu là-dessus, mais en tout cas, gros gap pour la brasserie. Mais c'est pas tout, puisqu'on a aussi une laveuse de fût.
Ouais.
Avec du coup sous des, enfin il y a deux bacs plus vapeur, donc ça c'est très cool, surtout que j'avais lu pas mal de choses sur le fait que c'était quand même important d'avoir une laveuse de fût à vapeur. C'est quand même fortement conseillé si on veut pas de soucis. Laveuse de fût, mais je n'ai pas encore de fût inox.
Oui, ça. Donc, oui, avant, t'avais pas ce besoin parce que de toute façon, t'étais en
fût jetable. Ouais, exactement.
Ça permet de se projeter un peu dans un avenir où on utilise de l'inox.
Voilà, ouais. C'est ça.
Ça, c'est plutôt cool vu le prix des fûts jetables.
Ouais. Et vu le désastre écologique que c'est, et vu l'enfer que ça représente d'acheter des palettes, j'ai 3 palettes en stock de fût jetable. Ça prend de la place.
Si tu veux passer à l'inox pour que ça te prenne moins de place dans l'entrepôt,
non, c'est peut-être pas là.
Non, je pense pas. Oui, oui. Mais à mon avis, t'as toujours un stock de fût plein, un stock de fût vide, un stock de fût potentiellement sale que tu dois laver.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est peut-être pas une question de place, mais en tout cas, ça permet de se projeter là-dessus, surtout quand on passait des bières nous-mêmes en local, où c'était quand même ridicule de remplir un fût, le revider genre le lendemain nous-mêmes et jeter le truc, tu vois.
Ouais, puis ce qui est vraiment con, c'est quand nous on fait un marché, de percer un fût jetable, quoi.
C'est ça.
Ouais. Payer 18 balles.
Ouais. Ben c'est débile. Donc pas les moyens pour l'instant d'acheter un parc de fûts, mais par contre il y a des solutions de location de fûts. On en parlera peut-être à l'occasion, mais c'est ce vers quoi on aimerait se pencher.
Ouais, pas mal.
Si vous êtes,
il y aura des gens dans le coin ou
pour louer les fûts?
Ouais.
Pas forcément. Si vous êtes loueur de fûts, que vous voulez sponsoriser l'épisode et nous filer des fûts, c'est à grand plaisir. Non, dans le coin pas trop, mais ça se trouve, ça se développe bien, et puis on verra comment goupiller tout ça. On s'est pas trop penché dessus, on a lancé 2-3 pistes.
Ouais.
Il y avait déjà 2-3 pistes d'évoquer au moment où on a fait le festoche Château Perché. Mmh. Donc voilà.
Tu voulais pas parler du CIP aussi?
Le CIP, c'était ça, je l'avais acheté avant, c'est pas le même lot.
Ouais. Ok.
Mais si tu veux que je dise un truc dessus,
Non, c'est une question.
Ça fait pas partie du nouveau matos, mais c'est vrai que je l'ai eu quasiment en même temps. Hein,
et que tu t'en es pas encore servi, si?
Si, de ouf.
Tu t'en es servi pour...
Dès que je l'ai eu, je l'ai fait tourner à fond.
Ouais.
Ah, c'est trop bien, ça j'adore. Ça c'était l'achat 2023 qui était trop bien, quoi. Trop content. Ouais, ça permet de gagner du temps, de l'efficacité, ça permet de recycler sa soude aussi, ce qui est quand même pas plus mal. Ça permet de limiter aussi un peu les dangers, je trouve. Parce qu'avant, j'étais là avec mes trucs à faire chauffer de la soude un peu n'importe comment, et on va dire que les fuites et le fait de s'en prendre un peu dans la tronche régulièrement, ça arrivait quoi. Ouais. Donc c'était pas génial. Là, t'as un truc à roulette bien fixe, enfin bien fixe du coup. C'est...
bien fixe mais à roulette quoi.
bien fixe mais à roulette, ce qui est génial parce que ouais. genre une fois qu'il est posé, il bouge pas, mais tu peux quand même le déplacer, le mettre devant tes fermenteurs, devant tes cuves. Enfin, non, c'est trop bien.
Donc confort, ça, confort de fou, non ?
Confort de fou. En vrai, je pense ça se rentabilise parce que du coup, tu utilises moins de soude, tu la récupères à chaque fois. Tu gagnes du temps, tu. Non, c'est parfait. C'est trop bien. Ça, j'adore. Donc, mais ça, c'était avant. Ouais. Et ensuite, bah, dans les nouveaux trucs aussi, parce que c'est pas tout, il y a le moulin. Ouais. Nouveau moulin aussi. Donc,
Moulin, ouais, qu'on a décrassé un peu là.
Ouais, qui était pas tout beau.
Mais ouais, mais il est un peu bizarre ce moulin. Il est très rapide. Ouais. Mais il a une trémie où tu mets 10 kilos quoi. Tu mets un demi sac et par contre c'est du 500 kilos à l'heure je crois.
Ouais,
il va falloir qu'on se bricole une trémie parce que.
Ouais, ouais. Je pense qu'il y a un peu de bricolage à mettre.
Un peu comme la technique que vous aviez trouvée avec Pépé justement.
Sur le grain phaser, ouais, carrément, c'est ça. Mais en plus gros du coup. C'est vrai que l'ancien moulin que j'avais était beaucoup plus lent. Par contre, la trémie elle faisait 60 kilos, ce qui permettait de mettre facile deux sacs. De partir vaquer à ses occupations et de revenir ce qui est pas mal. Là j'ai l'impression que c'est presque de l'instantané quoi, t'es avec ton sac, tu le fais.
Ouais, mais après ce qui est... enfin, faudrait pas qu'on soit constamment avec le truc sur l'épaule en attendant que ça,
non, bah non,
ça tombe quoi.
C'est l'enfer. Non, on va trouver une solution.
On va se faire un petit truc.
Mais donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Les fermenteurs, la salle de brassage, la chaudière vapeur, l'embouteilleuse, la bâche à eau froide, le groupe froid, la laveuse de fût, le moulin.
Ah ouais, on a fait le tour.
Ouais, voilà. Donc, quand même, gros changement.
Ouais.
Il y a quasiment tout qui bouge.
Tout est parti, quoi.
Ouais.
Il reste les deux de 5 hectos.
Les deux de 5 hectos, le CIP et voilà, quoi. Quelques tables. la Daniken qui est toujours là aussi, qui fait petite à côté de l'embouteilleuse 10 hectos.
Ouais. Ouais. Mais par rapport à ce qu'on disait au début de l'épisode, c'est que... Il y a ce double avantage qui est que non seulement par rapport à la PBC où il y avait des éléments un peu disparates, c'est plus confort, mais en plus, toi Antoine, tu as participé au montage de ces choses-là. Est-ce que ça permet quand même un peu de mieux visualiser ou du moins d'avoir déjà une vue d'ensemble de toute la chaîne?
Bah, en fait, ce qui était marrant et un peu compliqué, c'est qu'on avait juste trois photos de la salle de brassage, aucun document technique, ni quoi que ce soit, n'est pas de contact avec les anciens.
C'est pas faute d'avoir demandé à Tonsen plusieurs fois des informations complémentaires et tout.
Donc il a fallu rebrancher tout ça un peu en puzzle. Donc ça permet de voir un peu comment c'est foutu. Après il y a eu des lavages parce que tout est arrivé dégueulasse.
Ouais.
Vraiment c'était infect quoi. Donc il a fallu nettoyer, faire des bons coups de soude plusieurs fois, en zibrou, nitrique, etc. Enfin la totale pour que tout soit nickel quoi. Et du coup ça permet de se servir un peu de la salle de brassage, tu vas voir un peu comment c'est foutu.
J'avoue que je pensais que t'allais plus galérer sur le montage parce que du coup c'est toi qui as fait le montage des branchements tuyaux inox. Il y avait des petits bouts de scotch avec marqué des trucs dessus quand même à certains endroits.
Il y avait une partie des trucs qui étaient indiqués, après d'autres non quoi.
Ouais. Il y a des pièces qu'on a trouvées en rab.
C'est la pièce que... Il y a des bouts de scotch dessus, donc théoriquement ça va à un endroit. Par contre, t'as pas trouvé où ça allait, mais ça marche quand même. Donc ouais, il y a des trucs comme ça. Bah, après, le truc était... Enfin, moi, ce qui m'a un peu saoulé, c'est que c'est du clamp. Et vraiment, c'est l'enfer.
Ah ouais, t'étais pas clamp.
J'ai toujours été en din. Et c'est une prise en main quand même. Hein. Donc là, pour l'instant, j'apprends. Mais bon, je vais m'y faire. Hein. Mais c'est vrai que pour le côté, t'as pas de mâle et femelle. Tu branches deux clamps et ça marche quoi.
Ouais, ça c'est cool.
Il y a du bon, mais bon, c'est un petit coup de main quoi.
Ouais. Je comprends.
Combien de temps pour l'installation au final
Ça dépend ce que tu comptes. Après, tu vois, le branchement du panneau de contrôle de la brasserie, ça a pris un peu de temps parce que pareil, il n'y avait pas d'indication. Donc, il fallait faire au multimètre qu'est-ce qui se déclenche si j'allume la chauffe de la cuve ébullition, brancher les électrovannes, etc.
Ouais.
Ça, c'était un peu long.
Il y avait des câbles qui servaient à rien.
Le panneau de contrôle de la brasserie fait aussi des fermenteurs.
Ouais.
Mais finalement, nous, on a fait une armoire de contrôle à part pour les fermenteurs, on s'en est pas servi.
Ok.
Il a fallu faire le circuit de froid, etc. Mais ça fait partie des travaux.
Ouais.
Un peu plus de travaux que d'install, quoi.
Mmh.
Mais après, même en termes géographiques, en termes de positionnement, je trouve qu'on est arrivé à un truc plutôt bien optimisé. Tout ouais. rentre bien.
On se sent pas à l'étroit, quoi. En même temps, on a bougé beaucoup de choses.
Ouais.
Il y a beaucoup moins de choses qu'avant. Ouais, donc, c'est presque, on se dit, putain, trop de place comme ça. Ouais. Alors, pour l'instant, on produit pas, il n'y a pas, la laveuse de fût, la bâche à eau, pour l'instant, on a trouvé une petite solution
de secours, mais, ouais.
Mais c'est pas la vraie, quoi.
Ouais, il nous manque une bâche à eau chaude, donc si, pareil, vous avez une bâche à eau chaude, ouais. 20, 30 hectos, chauffe-vapeur, on stocke, qui traîne dans un garage, voilà. N'hésitez pas, envoyez un message.
Ouais, peut-être ça s'échange contre le fermenteur 150.
C'est ça, voilà. Mais non, ouais, je trouve que c'est plus aéré et plus agréable que l'ancienne disposition. Mmh. Et finalement, ouais, il y en a beaucoup moins qu'avant.
Après, on a un peu revu les travaux petit à petit. Au début, on voulait faire un espace bureau labo.
Ouais.
Après, bon, finalement, on s'est dit, on le fera plus tard. Déjà, on va commencer à produire, on verra. Quoi.
Ouais.
Puis on voulait faire la salle de concassage ici.
Ouais.
Et ça aurait pris quand même pas mal de place.
C'est vrai.
Donc vraiment faire un truc fermé pour pas qu'il y ait de farine qui se balade un peu partout. Mmh. Et en fait, on s'est dit, on va la faire dans l'entrepôt. Ça va être, on a plus de place là-bas, c'est un peu plus chiant à transporter. Mmh. Mais on va gagner de la place, quoi. On a plus de place ici.
Ouais. Donc très content de tout ça. Gros step, hein, j'avoue que je m'attendais pas du tout. Je sais plus si j'ai déjà dit, mais arriver à cette taille là et à ce niveau de matos là aussi vite, mais en même temps, c'est bien. Enfin, ça commence à ressembler à quelque chose, quoi.
Ouais, et puis ce que je trouve cool aussi, c'est que bon, là ça a pris plus de temps que ce que t'aurais voulu
sur les travaux.
Sur tout, sur l'installation, les travaux, entre le moment où tu déclenches l'achat et puis le moment où tu es prêt à brasser, quoi. Mais en même temps, c'est peut-être à peu près la seule fois où t'as pas acheté du matos avec une pression, avec une deadline hyper rapprochée derrière, quoi. J'ai l'impression que t'as jamais eu vraiment le temps de te poser, de faire des travaux, d'avoir autant de temps pour installer, parce qu'à chaque fois c'était waouh, j'espère qu'ils vont pas être en retard parce que là je branche tout et je brasse direct, quoi.
Ouais, c'est vrai. Là on a le en plus on a tout vidé donc pour Noël. Et c'est vrai que c'est la première fois depuis le lancement de la brasserie en juillet 2021 que il y a rien en fermentation, quoi.
Ouais.
Ce qui est pas une bonne nouvelle en soi.
Non, on essaie d'éviter.
C'est vrai que ça permet de mieux se poser sur les travaux et sur le de vraiment se concentrer là-dessus et
d'avoir le temps de faire peut-être un
d'avoir le temps et surtout la mieux, flexibilité quoi. Et la liberté de faire ce qu'on veut, parce que c'est vrai qu'avant les travaux ils se sont aussi faits autour de trucs qui étaient existants et qu'on pouvait pas bouger ou qu'on pouvait pas trop déplacer, et c'est pour ça que la brasserie était peut-être un peu alambiquée avant, et
là ça a permis quand même de faire un peu, j'ai l'impression, une sorte de retour à zéro, enfin de
totalement.
Mais c'est ce dont on parlait en plus dans l'épisode de la nouvelle marque. Ouais, exactement.
La nouvelle ère.
La nouvelle
ère.
Une nouvelle étape, quoi. Ouais.
Donc, ouais. Voilà. Donc, trop cool. Nouveau matos. Là, c'est du sérieux. On va faire.
Il n'y a plus qu'à remplir tout ça.
Il n'y a plus qu'à remplir tout ça. Ouais. Finir quand même les trucs à finir. Mais. Ouais. Ça va être. Enfin, là, avec ça, on a pas de. Plus d'excuses.
Ouais. Bah, rendez-vous dans un prochain épisode pour vous parler des premières galères.
C'est l'enfer. L'embouteilleuse.
Je pense qu'il y aura peut-être un truc là-dessus.
Il y a toujours un truc, hein. C'est l'impression que c'est un fil rouge à chaque fois qu'il y a eu une nouvelle embouteilleuse ou encaneuse, ou chaque fois qu'il était question de conditionnement, ça a été l'enfer.
Ouais, on va essayer de se préparer au mieux, quoi. Faire une petite révision max et puis voilà, quoi. Mais ouais, déjà de voir comment ça fonctionne cette embouteilleuse, c'était intéressant. On a chopé quelques astuces, parce qu'on n'est pas les seuls, on sera pas les seuls à se prendre la tête là-dessus. Il y a même un groupe Facebook là-dessus sur trucs et astuces de matos chinois.
Utilisateur de francophone de matos chinois.
Ouais. Wow, il nous aide bien.
Et puis toutes comme d'hab, hein, toutes les infos qu'on trouvera, qu'on expérimentera, on les partagera. Je sais que c'est quand même une machine qui est assez commune finalement, même si elle a tous ses défauts. Elle a quand même l'avantage d'être pas très chère, donc
ça permettra de de faire avancer le sujet. Et...
C'est ça. C'est ça, c'est ça.
Bah, sur le Discord, peut-être.
Oh oh. Et ouais.
Très bien. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour de la salle.
Exactement.
De brassage. Eh ben, merci pour ce nouvel épisode. On se retrouve très bientôt dans Brasseur Podcast.
Pour parler des travaux.
Ah ça, ouais. Oui. Ça va être encore un gros morceau, ça.
Ouais, il y a de quoi dire en plus, là.
Homemade.
Ouais, ouais, en plus, hein.
C'est ça.
Ouais. Faudra le faire avec Didier, ça.
Ah, ce serait marrant, ouais.
Ah ouais, c'est vrai.
Eh ben, on en parle très vite. A plus.
Ok, à plus, salut.